Bienvenue à tous, Divergence Numérique, 7e émission. Gilles Gouget qui vous cause sur les ondes de Divergence FM sur le flux de Peercast. Albert Bruck et Jean-Claude Stiegler sont avec moi. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir Gilles.
Albert Bruck et Jean-Claude Stiegler de LinuxFrench.net. Une émission aussi avec la participation de LeaLinux.org. Et puis on peut faire un petit coucou à tous les lecteurs de Linux Magazine France qui nous écoutent toujours en différé, mais j'espère toujours avec plaisir. Un sommaire plutôt bien rempli, puisque après les nouvelles du front, on écoutera de la musique libre. Et puis on aura aussi une petite interview que vous avez ramenée, que tu as ramenée Albert, de Game Over, qui s'est tenue à Limoges il y a très peu.
Oui, effectivement, c'était le 9 et 10 avril, donc à Limoges, vendredi et samedi. C'était un salon sur le jeu, sur plateforme libre. Et de là-bas, je vous ai ramené un interview qui n'a pas grand-chose à voir avec le jeu, mais par contre avec l'Internet et le libre, on va parler des espaces publics numériques.
Voilà, une interview de Céline Boyer, si je ne m'abuse. Et puis on aura encore de la musique avant d'avoir une interview par téléphone de l'équipe de NASGAIA, la distribution française communautaire. Peut-être un petit détail.
C'est une distribution française faite par un groupe de développeurs, donc il n'y a pas de société derrière, contrairement par exemple à Mandrake. Et elle est tout à fait innovante par les principes qu'elle propose. Et nous allons découvrir avec un de ses membres ce dont il en retourne.
Voilà, et puis après encore un petit peu de musique libre, on retrouvera Thierry Stoer pour une chronique spéciale AFUL. AFUL, un acronyme qui vous veut du bien. Après quelques mots sur le spam, aux alentours de 19h50, on écoutera toujours de la musique libre, encore un morceau de Philippe de Montredon dont on va parler dans cette émission. Et puis on fera évidemment l'agenda de tous les rendez-vous. Est-ce que l'agenda est rempli pour cette édition ?
Énormément, énormément.
Énormément. Alors tout de suite, les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Jean-Claude.
Oui, alors les nouvelles du front, elles ne sont pas spécialement joyeuses parce que en ce moment, le Conseil de l'Europe est sous la présidence de l'Irlande et j'ai reçu dans ma boîte aux lettres hier soir un courrier de la FFII.org qui centralise toutes les informations concernant les brevets logiciels mais aussi la propriété intellectuelle et bien d'autres choses. Et il semble que la présidence actuelle, donc de la communauté européenne, veut faire revenir devant le Parlement la directive concernant les brevets logiciels telle qu'elle était au départ, c'est-à-dire en ayant quasiment rayé tous les amendements proposés par et votés surtout par le Parlement le 24 septembre 2003.
Alors ça pose la question cruciale de l'utilité de ce Parlement, parce que si une directive aussi, on va dire, agressive, qui est amendée par le Parlement dans un sens plutôt plein de bon sens, si finalement ça c'est remis en question par la présidence de la communauté européenne, on ne comprend plus trop, quoi.
Moi, j'avoue qu'en tant que citoyen, là, il ne s'agit même plus de problème de brevet ou de quoi que ce soit d'autre, mais en tant que citoyen, je me pose de grosses questions sur la validité de la démocratie européenne et qu'est-ce que le Parlement européen aujourd'hui, si c'est simplement une chambre d'enregistrement des décisions des gouvernements constituant les différents États de la communauté, ou si vraiment il a un contenu démocratique. Si cette directive revient telle qu'elle était au départ et que en plus on passe outre le vote du Parlement à supposer que le nouveau Parlement, parce que de toute façon il va y avoir bientôt un nouveau Parlement, reprennent en compte les amendements du premier, du 24 septembre dernier. C'est à désespérer, quoi. À désespérer de l'Europe, quoi.
Surtout, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'à partir du 1er mai, donc...
Il y a 10 nouveaux États.
Il y a 10 nouveaux États. Et que pour beaucoup d'entre eux, les brevets logiciels, c'est quelque chose d'inconnu, parce qu'ils n'en sont pas encore là, quoi.
Est-ce qu'on a une notion, justement, de l'implantation des logiciels libres dans les nouveaux entrants ?
Pas vraiment, mais ce qu'on peut voir, par exemple, en Pologne, c'est que la Pologne est assez active au niveau des logiciels libres pour pas mal de CMS, surtout de produits un peu spécifiques. À part ça, il y a d'autres pays comme la Turquie qui a aussi quelques développements, mais c'est pas très extraordinaire à ma connaissance.
La Turquie ne rentre pas dans la communauté européenne, le 10.
Oui, non, c'est pas la Turquie. Je confonds avec la Grèce.
Pas avant 10 ans.
Non, pas avec la Grèce. Je suis trompé, excusez-moi, c'est la Grèce. C'est avec la Grèce. Non, parce que la Turquie, c'est une autre histoire. Avec la Grèce, effectivement. Et c'est vrai que bon, les logiciels libres sont utilisés beaucoup parce que contrairement à d'autres, ben, on peut se les avoir gratuitement. Donc, en fait, ils sont implémentés par ce biais-là, mais ils ne sont pas vraiment implémentés au niveau politique et administratif.
Voilà. Le logiciel libre dans tous ces pays qui viennent dans la Nouvelle Europe, enfin, qui adhèrent à la communauté européenne, existe vraiment au niveau du développement des projets. Il y a beaucoup de développeurs qui viennent, qui sont localisés. Il y a beaucoup de projets d'ailleurs qui sont localisés.
Surtout en Europe du Nord, en fait.
En Europe du Nord, mais même en Europe de l'Est aussi.
Ouais, parce que et justement, la faiblesse, entre guillemets, des coûts du logiciel libre, du concept, logiquement, devrait intéresser ces pays qui ont quand même un niveau de vie, un pouvoir d'achat nettement inférieur.
Oui, ce qui vient fausser les choses, c'est que sur le plan politique, et c'est un paramètre qu'on est bien obligé de prendre en compte. Les gouvernements actuels dans ces pays qui entrent dans la communauté européenne ont une fâcheuse tendance à suivre les États-Unis. Et personnellement, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour le prochain vote au Parlement qui aura lieu, parce qu'à mon avis, ils ne peuvent pas mettre au calendrier du Parlement avant les nouvelles élections ce vote sur la directive qu'on va nous reposer quasiment telle qu'elle était au départ. Donc ça va être forcément pour la prochaine chambre. Et là, je me demande comment les choses vont se passer. Il va falloir se mobiliser beaucoup.
Alors, bref rappel, avant peut-être de parler d'autre chose. Les brevets, c'est quand même des millions d'emplois indirectement et des milliers d'emplois directement qui pourraient être menacés. C'est aussi l'innovation qui pourrait en prendre un sérieux coup sur la patate. Donc, et tout ça au profit de quelques lobbies qui ont prouvé une fois de plus leur extrême efficacité.
Et surtout aussi l'indépendance de chaque nation par rapport aux autres. Ouais. C'est une indépendance importante.
Mmh. Que peut-on dire de l'ALEN qui est passée, il faut bien l'avouer, même si le filtrage a été revu et corrigé, peut-être?
C'est une loi qui est toujours aussi pernicieuse et dangereuse. Bon, c'est vrai qu'elle a été allégée de quelques denrées techniques, je dirais, qui obligeaient les fournisseurs d'accès à conserver, enfin, à se transformer en officier de police ou de justice. Mais malgré tout, ça reste extrêmement dangereux. Et j'espère que un parlement prochain reviendra en arrière sur ce sujet.
Mmh. On va écouter de la musique, une musique tout à fait relaxante après ces nouvelles du front. Il s'agit de The Serendipitous Cacophonies qu'on avait déjà écouté dans une précédente émission. Là, le titre s'appelle God, Gog and Google, une composition plutôt, je dirais presque ésotérique. Je pense que c'est du MIDI presque, ou en tout cas c'est de la forme d'onde de synthèse, mais c'est assez rafraîchissant et assez intéressant, ma foi.
Thank you.
Voilà, un travail harmonique plutôt intéressant. Ça s'appelait God, Gog and Google. C'est The Serendipitous Cacophonies. Une musique sous licence Open Audio License, il faut le préciser. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il n'y a pas si loin que ça, et c'était vraiment pas ennuyeux du tout. C'était Game Over, le salon, le premier salon consacré entièrement aux jeux sur plateforme libre. Alors Anthony et Albert s'y sont rendus pour Divergence Numérique. Impression.
Bah, très bonne impression. Bon, c'était le premier salon, on peut pas dire qu'au niveau fréquentation ça a été très très important, mais sur les deux jours il y a eu un peu plus de 500 personnes qui sont venues quand même.
Est-ce que l'espace du salon était suffisamment petit pour que ça fasse pas trop désert?
Oui, tout à fait, oui. Puis en fait, beaucoup d'ordinateurs et beaucoup de jeux, et en fait, il y avait aussi beaucoup de gens qui attendaient leur tour pour pouvoir jouer. Il y avait énormément de machines. Si ma mémoire est bonne, il devait y en avoir une trentaine. Elles étaient en permanence occupées. Il y avait toujours des gens debout qui attendaient pour pouvoir jouer. Il y a eu aussi quelques conférences sur des jeux libres, par exemple comme Torx, qui est un jeu de simulation de voiture, tout à fait, et qui était d'ailleurs initié par leurs auteurs. Il y en a eu d'autres aussi sur l'équipe, par l'équipe de Nekeme, qu'on a déjà interviewé il y a quelques temps et dont vous avez déjà
qui fédère plusieurs jeux, plusieurs projets de jeux, ouais.
Voilà. En fait, ça a été une manière aussi de découvrir une nouvelle région de France, Limoges et sa porcelaine et ses bars, surtout ses bars, il faut dire. Ça a été très très intéressant, très amusant. C'est vrai que le jeu, ça apporte une autre manière de voir le libre. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un système en fait grandit aussi par ses jeux, parce que c'est ce qui permet de le rendre accessible à tout un chacun. Mmh. Et c'est vrai qu'en développant des jeux libres sur Linux ou sur d'autres systèmes libres, on rendra ce système plus présent. Mmh. Parce que c'est malheureusement, enfin ou heureusement, par le jeu qu'un système aussi évolue.
Mmh. Alors moi je suis un petit peu curieux, quand on avait eu les gens de Nekeme en interview, il s'est passé un petit peu de temps depuis. Il faut savoir que les projets de chez Nekeme sont à divers stades de développement. Il y en a sur lesquels on peut jouer, il y en a d'autres qui sont vraiment des projets. Alors est-ce qu'il y a eu des avancées significatives sur l'un ou l'autre des projets? Je pense, je sais pas, Gobelins, Lune ou
Gobelins,
Carte.
Gobelins avance toujours et il devrait y avoir sans doute pour les rencontres mondiales du logiciel libre une première version, peut-être pas jouable, mais au moins déjà une première démonstration. Concernant Slune, bon, lui, il est fonctionnel, mm-hmm. Et je crois qu'il est en réécriture pour essayer de l'améliorer, si la mémoire est bonne. Pour le cas de Banquiz, qui est aussi un autre jeu qui se joue en réseau, c'est aussi le cas. C'est aussi un jeu jouable, mais il est aussi en réécriture pour essayer de l'accélérer, de le rendre encore plus puissant. Concernant Arkart, il y a une nouvelle version qui ne devrait pas tarder à sortir. Parce que la version qui existait pour l'instant était plus une démo qu'autre chose. Et là, en fait, il y a une nouvelle qui devait sortir qui devrait proposer un peu plus qu'une démo. Mmh. Voilà. Ça fait les gobelins, oui, pour cet été.
Donc,
voilà.
Ils vont réédition du salon Game Over l'année prochaine, sans aucun doute.
Oui, nous espérons. Et déjà, ce salon a été une manière pour ses organisateurs et pour les visiteurs externes de découvrir un peu la manière dont ça fonctionnait. Il faut dire que bon, c'est vrai, c'est à 3 heures de Paris, mais à plus de 7 heures de Montpellier. Donc bon, selon où on se situe en France, c'est plus ou moins facile d'y accéder. Mais c'est un salon, à mon avis, qui a de l'avenir. Et le jeu, de toute manière, ça a de l'avenir.
Alors Albert a rencontré aussi Céline Boyer, qui est animatrice d'un espace public numérique. Qu'est-ce que c'est, Casaco? Ça fait bigrement penser à un ECM. Est-ce que c'en est un
C'en est un, mais c'est une autre manière de faire le CM qui est beaucoup plus orientée, en fait, comme Céline va nous l'expliquer.
Céline Boyer, bonjour. Tu es responsable, en tant qu'animatrice multimédia, de l'espace public numérique à Limoges. Peux-tu nous parler de ce qu'est un espace numérique ?
D'accord. Un espace numérique, avant tout, c'est un centre de ressources. Donc nous, en fait, on est parti sur la base que cet espace numérique aurait la particularité d'être simplement sur du libre, pour essayer de sensibiliser la population du Limousin, essentiellement, mais à grand public. Donc cette espèce s'est créée en fait grâce à un concours de la région, où c'est qu'on a eu des subventions d'État et on a créé des partenariats avec le CRDP qui nous héberge et qui nous fournit l'électricité et autres, et l'Université de Limoges. C'est grâce à ça qu'on a pu le mettre en place et l'ouvrir en fait. Donc ce que l'on fait dedans, c'est on est vraiment là pour apporter des ressources aux gens, que ce soit au niveau internet à la base. Quand même, un espace public numérique, c'est l'accès internet pour les plus défavorisés, pour les gens qui n'y ont pas accès, qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Et ensuite, on a la particularité de faire du libre, donc on va les sensibiliser sur des logiciels libres, leur montrer les solutions, les initier s'ils sont intéressés, donc on leur propose des formations, des initiations et autres. Et essentiellement aussi du conseil, du renseignement sur les différentes solutions qui existent en fonction de ce qu'ils attendent. Parce que le plus grand public qu'on a, c'est quand même les enseignants. Donc les enseignants, eux, ce qu'ils attendent, c'est des solutions pour l'école. Et donc on est obligé de les chercher, quoi. Voilà.
De quelle manière fonctionne un espace public numérique ? Quel est son type de fonctionnement ?
Donc un espace public numérique fonctionne de manière payante et gratuite. Il y a deux services différents. Le premier apport qu'un espace public doit amener, c'est la possibilité de faire passer ce que l'on appelle les PIM, les passeports internet multimédia. Donc ça, c'est juste, c'est gratuit. C'est juste pour dire aux gens qui savent se servir un minimum d'internet, d'une messagerie et autres. Donc tout ça, c'est gratuit. Ensuite, on leur donne 2 heures d'accès internet gratuit pour qu'ils puissent s'habituer aussi au logiciel libre, vu que c'est quand même une particularité qu'ils n'ont pas forcément l'habitude. Donc les navigateurs, etc., je vais leur expliquer pendant 2 heures tout ce fonctionnement et après je vais les laisser naviguer tranquillement. C'est pour ça qu'ils ne payent pas. Tout ce qui est conseil, veille technologique et autres, attentes de solutions, vu qu'il y a beaucoup d'écoles qui viennent me poser des questions sur des solutions pour les écoles, ceci est tout gratuit. Et ce que nous, on va faire payer, après, c'est au bout des 2 heures d'Internet gratuit, on va faire payer 1,50€ de l'heure. Et sinon, tout ce qui est formation, initiation, on va les faire payer 6€ de l'heure. Après, ce que l'on fait aussi également pour rentabiliser, parce que l'espace public numérique, on ne compte pas sur le client pour nous ramener de l'argent, on va faire des formations. Alors nous formons essentiellement des gens de faculté. Nous avons fait dernièrement là, un atelier pour la fac de sciences, les TIC. Et là, on se base sur les tarifs de l'université et des vacations. Donc on va toucher un peu plus d'argent. Et sinon, on va faire des prestations de services dans des écoles ou autres. C'est que là aussi, on va se baser sur les tarifs éducation. Mais ce que l'on recherche aujourd'hui à faire, c'est de devenir centre de formation agréé pour pouvoir donner accès à des formations aussi à des chômeurs. Et qui puisse être indemnisé par la NPE. C'est un gros avantage.
Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.
Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, les chômeurs ne peuvent pas être indemnisés par la NPE parce qu'on n'est pas reconnu centre de formation agréé et que malheureusement les papiers c'est très précis, l'administration c'est très précis. Et même si on est en plein passage, on est en train de faire la demande de ce centre, la NPE ne prend pas en compte. Donc effectivement, il y a des chômeurs que l'on forme actuellement qui se retrouvent en devant payer de la formation qu'ils sont en train de suivre. Donc ça, on va essayer de trouver une solution parce qu'on s'adapte vraiment au client et on ne veut pas le ruiner, c'est pas notre but. Le but, c'est qu'il prenne du plaisir et qu'il vraiment il apprenne et qu'il en sorte en ayant des connaissances un peu plus approfondies et surtout ce qu'il attendait, quoi. Vraiment, c'est le service au client même, quoi, ce qu'on fait actuellement, tout de même.
Vous êtes en train aussi de développer un nouveau projet qui s'appelle Point Libre. Tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui. Alors Point Libre, en fait, est en train de monter le projet d'un espace public numérique. Donc le concept, c'est qu'on achète 6 portables, à peu près, avec une carte Wi-Fi. Cela va permettre d'avoir un accès à Internet d'à peu près partout et de pouvoir se balader. Ces portables sont équipés d'un système Linux. Et notre but, c'est d'aller démarcher les écoles pour proposer des formations soit aux enseignants, soit aux élèves, selon la demande. Parce que selon les écoles, il y a des directeurs qui préféreraient peut-être que ce soit les profs, d'autres que ce soit les élèves. Et ça se passera surtout au niveau des écoles primaires actuellement, donc des jeux éducatifs et la manière dont sont faites les distributions pour l'éducation au niveau du libre, vu qu'il y en a de plus en plus tout de même. Donc voilà, on va essayer de favoriser ce côté-là du libre, l'éducation.
Céline, tu penses quoi de Game Over comme salon ?
Alors Game Over, je ne suis pas la principale organisatrice, je participe à l'événement. Je pense franchement que ça a été un très bon travail de la part des gens qui ont organisé, parce que je pense que la plupart des gens ont pris du plaisir jusqu'à présent. L'essentiel de Game Over, c'était de rassembler le maximum de personnes sur les jeux, vu qu'aujourd'hui les jeux intéressent de plus en plus les jeunes, et de leur montrer que c'était sûr que ça pouvait fonctionner sur des plateformes libres. De plus, il y a des associations qui sont venues nous montrer comment ils développaient ces jeux sur plateforme libre, ce qui est intéressant. Et pour l'instant, je pense que ça s'est très bien passé, et j'espère vraiment qu'on pourra renouveler cette expérience. Vraiment.
Je te remercie et sans doute à très bientôt.
Et à l'année prochaine pour le salon Game Over. Un petit peu de musique. J'ai découvert aujourd'hui un artiste marseillais, figurez-vous, en me baladant sur internet à la recherche de musique libre. Il est sous la licence Open Audio License, lui aussi. Il est marseillais, il a commencé à prendre des cours de piano en 79. Son prof était un ancien professeur du conservatoire de Marseille. Il a toujours eu une passion pour tout type d'instruments et de machines. A appris en autodidacte à jouer de la guitare, de la basse, de la batterie, des instruments de percussion. Et puis depuis les années 90, il a commencé sa carrière musicale et a rencontré des musiciens indiens avec lesquels il a créé Nataraj XT, un groupe chez Newton EMI, un groupe de Indian Techno plus ou moins. En ce moment, il apprend à jouer les tablas avec un des tablaïstes du duo Sahal. C'est vraiment intéressant. Il s'appelle Philippe de Montredon. Son site internet, c'est http://djk314.free.fr djk314.free.fr, et c'est vraiment pas mal. Là, on va écouter un titre qui s'appelle Saint-Germain, et on comprend tout de suite pourquoi. Philippe de Montredon qui nous interprétait Saint-Germain, une musique sous Open Audio License. Je pense que nous sommes au téléphone avec Aurélien Maury de Nasgaïa. Bonsoir.
Bonsoir.
Aurélien, bonjour. C'est Albert de Linux French en même temps de Divergence. On en voulait en savoir un peu plus en fait sur Nasgaïa, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, la première distribution communautaire française, qui est un peu différente de tout ce qu'on peut trouver ailleurs. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer qu'est-ce qui fait exactement la différence de Nasgaïa par rapport à d'autres distributions, que ce soit par exemple une Mandrake, une Debian ou une Gentoo?
Bah, la principale différence, en fait, c'est que on essaye de. Enfin, c'est d'abord un projet humain avant d'être un projet technique. C'est-à-dire que c'est aussi et surtout pour apprendre à travailler sur un projet en commun, qui est pas une chose facile. Et on essaye, pour se démarquer un petit peu des autres distributions, en fait, de faire notre distribution avec tous les outils nécessaires sur un seul CD. Et également de proposer en fait une distribution optimisée pour les processeurs de dernière génération, à savoir les plus courants étant les i686. Donc c'est vraiment réservé aux ordinateurs récents.
D'accord. Qu'est-ce que aujourd'hui vous avez sorti, enfin il y a quelques mois maintenant, deux si je ne m'abuse, Nasgaïa 1.0. Qu'est-ce que aujourd'hui fait la force de Nasgaïa 1.0?
Je crois que la première force Nasgaïa, c'est avant tout la communauté qui, depuis la 1.0, qui en fait était la première version publique, puisque avant ça, on travaillait en équipe restreinte, on a vu la communauté grandir de mois en mois et on a pu comme ça augmenter notre offre logicielle, puisque il y a eu donc de nouveaux contributeurs au niveau technique pour les installations de logiciels, mais également au niveau graphique, puisqu'on essaye de proposer une charte cohérente sur notre distribution.
D'accord. Le fait de se trouver sur un seul CD fait que vous avez dû faire un choix au niveau des applicatifs. Mais si, par exemple, je veux un autre logiciel ne figurant pas sur ce CD, je fais comment? Est-ce qu'il faut obligatoirement être connecté à Internet, ou vous comptez dans l'avenir augmenter le nombre de CD disponibles?
Alors en fait, on essaye de garder donc sur un CD un système complet et cohérent, mais il est possible effectivement dans l'avenir de proposer au public des CD qui contiennent uniquement des logiciels supplémentaires. Maintenant, pour l'instant, les moyens techniques font qu'on est obligé, pour avoir une autre offre logicielle, d'avoir une connexion Internet.
D'accord.
J'aurais une question, justement, quelle est la taille de la communauté? Combien vous êtes? Justement, vous parliez à l'instant de moyens, quels sont-ils?
Alors, les moyens, ils sont ceux que les gens apportent, puisque là, pour l'instant, on n'a pas de véritable structure au sein des équipes, puisqu'on est en pleine élection en fait pour savoir comment sera organisé le projet dans l'avenir. Et au niveau du nombre, je crois qu'on peut dire qu'on est une petite trentaine de personnes vraiment motivées à travailler dans le projet, et notamment un grand merci à Mire, notre nouvel hébergeur, qui nous a sorti de deux mois de traversée du désert.
Oui, on le sait, Tux Family, un hébergeur du Libre, a eu quelques soucis il y a de cela maintenant 2 mois et demi, 3 mois. Et de nombreux projets, dont Nasgaïa, se sont retrouvés à la rue, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, bon, même si normalement Tux Family devrait revenir d'ici cet été, c'est vrai que beaucoup de projets souffrent actuellement de cette situation.
Voilà, nous on a eu la chance d'avoir un nouveau contributeur qui est également hébergeur de son métier, et qui nous a donc proposé gracieusement d'héberger le projet, les pactages qu'on va développer dans le futur, et le premier miroir public des pactages existants.
Une date de sortie prévue pour la 1.1 ou 2 ou...
En fait, sur ce point-là, on fonctionne un peu comme Debian, c'est-à-dire que, étant donné que c'est un projet humain et que il y a des aléas partout, on fournit aucune date sur ce qui est des prochaines sorties, mais on y met tout notre cœur pour que ça arrive le plus vite possible.
D'accord.
Est-ce que vous êtes tous dans la communauté Nasgaïa en partie impliqués dans le projet. J'imagine, est-ce que c'est uniquement des gens qui travaillent à côté et qui consacrent une petite partie de leur temps comment ça se passe?
Il n'y a personne qui travaille à temps plein dessus, mais on est, sur tous les contributeurs, il y a des étudiants, des gens qui travaillent dans l'informatique, qui travaillent dans d'autres domaines, mais qui s'y intéressent et qui essayent de participer de leur façon. Il y a également des gens qui font que passer et qui donnent leur avis sur les chartes graphiques ou sur l'organisation, ce que ça devrait être pour que ça leur soit accessible. Et on essaye d'être comme ça le plus à l'écoute possible de tout le monde, en fait.
Le fait de développer NASGAIA pour des architectures récentes, c'était un choix qui a été dicté par quoi ?
C'est un choix qui a été fixé surtout pour les performances, parce qu'on s'est dit que les ordinateurs actuels qu'on peut acheter ont des possibilités qui n'étaient pas exploitées forcément par toutes les distributions. Et donc ça a été un choix technique, pas spécialement pour avoir un cœur de cible spécial, mais vraiment juste dans un souci de performance sur les machines qu'on avait à notre disposition au moment où ça a commencé.
Comme tout projet, je suppose que vous avez besoin de contributeurs. Si vous aviez un appel à passer, quel serait-il aujourd'hui ?
Eh bien que on a besoin de contributeurs pour des artistes, des contributeurs pour faire des pactages d'installations, des contributeurs pour donner leur avis également sur ce que devrait être un Linux français alternatif et libre. Et j'appelle tout le monde à participer parce que la vie de tout le monde nous intéresse.
On sait qu'en France, la seule distribution commerciale, c'est Mandrake. Quel est votre positionnement vis-à-vis de ça ? Est-ce que vous soutenez l'existence en France d'une distribution commerciale de Linux ? Est-ce que ça a une importance ?
On ne soutient ni ne condamnons cette initiative. Chacun fait sa sauce comme il peut. Et bon, nous, on a décidé de faire un projet libre et de tout faire pour qu'il le reste. Maintenant, chacun fait comme il le veut.
On a parlé en début d'émission, peut-être avant de se quitter, on a parlé en début d'émission des nouvelles du front. J'imagine que vous êtes aussi préoccupé par l'actualité, que ce soit au niveau des brevets ou au niveau de la laine.
Oui, on est beaucoup préoccupé. Malheureusement, personnellement, j'ai pas eu l'occasion, parce que j'ai beaucoup de travail, de m'intéresser plus avant sur ce sujet, donc je pourrais pas parler au nom de mes camarades là-dessus.
Mais bon, là, on a appris incidemment aujourd'hui qu'en fait, ce qui a été voté par le Parlement a été complètement rejeté et que ça va être remis sur le tapis sans doute à la prochaine rentrée, donc de l'Assemblée européenne. C'est pas une très bonne nouvelle. C'est vrai qu'on est un peu sur le coup nous aussi. Est-ce que des associations comme NASGAIA vont s'impliquer dans cette lutte ?
Eh ben justement, là, en ce moment, on est en train de se structurer parce qu'on n'a pas encore d'association à proprement parler, NASGAIA. Mmh. Et donc, on est en pleine effervescence pour savoir quelle organisation donner à notre projet pour avoir un peu plus de corps et éventuellement pouvoir justement s'investir dans ce genre de sujet avec une vraie crédibilité plutôt qu'en étant juste des gens disparates comme ça.
On vous remercie d'avoir bien voulu répondre à cette interview. Et
peut-être qu'on peut rappeler l'URL de NASGAIA, bien
tout
sûr.
Tout à fait.
Eh bien, c'est nasgaia.org, nasgaia.org. Et si vous voulez, également, il y a beaucoup de membres des contributeurs qui traînent sur les channels IRC de freenode.net, le channel NASGAIA.
IRC.freenode.net.
Nasgaïa.
Pour ceux qui nous écoutent. Merci Aurélien.
Je vous remercie beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. The Catholic ethicist has a publicist, scheduling lectures and signings at borders, waiting on email from Lottie Princeton. Exerting his novel can take place this April in Berkeley.
On écoutait à l'instant Pete Thomas qui nous chantait Berkeley, un campus et une ville plutôt célèbre. C'est une musique sous licence Creative Commons, attribution share alike. Pour plus de renseignements sur http://creativecommons.org. Toujours sur Divergence FM, c'est Divergence Numérique. On attend incessamment sous peu eh bien, le coup de fil de Thierry Stoer dans 5 petites minutes que nous allons utiliser bien à bon escient pour par exemple parler de l'asile. Bientôt, vous y serez tous enfermés.
Exactement. Va apparaître sur vos écrans d'ici quelques semaines nouveau portail. Son nom, c'est l'Asile. Je vous laisse découvrir l'acronyme. Exactement. Je vous laisse découvrir l'acronyme qui se cache derrière. Nous, on en a un, mais on vous laisse nous proposer les vôtres. Alors, ce site va regrouper en fait les énergies de Léa Linux et Linux French. Vous y trouverez dessus des informations qui vont en fait être transférées de Léa et de Linux French, comme par exemple la carte des lugs. Vous y trouverez aussi un système qui sera très bientôt mis en place pour permettre aux développeurs de parler de leurs projets et d'en avoir d'autres qui pourront ainsi leur proposer de l'aide. Mais aussi, il y a le Léa annuaire qui va passer dessus et beaucoup d'autres choses, des articles particuliers qui se retrouveront dessus, etc., etc.
Alors pour les SUS qui n'entravent rien à ce que dit Albert, sachez que lea-linux.org, c'est un site en fait dédié aux gens qui découvrent Linux, qui veulent en fait avoir des informations concrètes sur des cas concrets, vraiment la technique, découvrir tout le côté un petit peu didactique, alors que Linux French a une tradition plus de rédactionnelle où on donne son avis sur divers projets ou sur diverses choses. On a aussi des articles de fond qui touche à l'actualité, qui touche aussi à la philosophie du libre. Il y a assez régulièrement comme ça des petits coups de pied dans la fourmilière sur Linux French qui disent « Gens du libre, réveillez-vous !» Donc en fait, c'est un mariage de raison un petit peu, parce que d'un côté, on a tout le contenu didactique, pourquoi, comment, pour ceux qui découvrent et qui sont intéressés. Et puis de l'autre, on a une espèce de journal. Jean-Claude.
En fait, je pense que c'est beaucoup plus qu'un mariage de raison. Je veux dire que Albert et moi, donc l'an dernier, nous étions aux rencontres mondiales du logiciel libre à Metz, et Léa Linux s'y trouvait également. Et à cette occasion, nous avons donc rencontré les animateurs, enfin quelques-uns des animateurs de Léa Linux. Et en fait, nous nous sommes rendus compte, les uns et les autres, de façon très mutuelle, que nous avions énormément de choses en commun. Et de là a germé l'idée de faire quelque chose ensemble. Je pense que la naissance d'Asile, de ce portail, elle vient directement de cette rencontre, des rencontres mondiales consacrées au logiciel libre.
Tout à fait, oui.
Qui auront lieu cet été d'ailleurs, au mois de juillet à Bordeaux.
Tout à fait. Et on y sera tous présents d'ailleurs.
Alors, dans le paysage de l'Internet consacré à Linux, est-ce que ça va représenter une montagne? Est-ce que c'est une OPA agressive ou sympathique ou...
Non. Ce qu'on a remarqué, en fait, que ce soit les gens de Léa ou nous, c'est que dans la communauté, en fait, il y a un éparpillement qui est assez important. Et qu'à cause de cet éparpillement, en fait, on n'arrive pas vraiment à se faire entendre et avoir du poids pour pouvoir s'exprimer vers l'extérieur. En se réunissant, déjà, on aura un peu plus de présence, un peu plus de poids. Donc déjà, on pourra parler de choses plus importantes et se faire entendre déjà beaucoup plus.
Auprès des politiques, auprès
des sociétés, etc. Tout ça, donner notre avis, dire et se faire entendre plus que ce qu'en étant complètement séparés. Aussi, il faut aussi voir que dans Linux French, il y avait aussi des articles techniques et que dans l'IA, il y avait aussi ce qu'on appelle des coups de bec. Et qu'en fait, on avait des points communs beaucoup plus que ce que les gens pouvaient penser, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que l'IA fait beaucoup de techniques, mais s'adresse avant tout aux débutants. C'est vrai que nous, on faisait aussi des techniques, mais dans un esprit d'aide aussi aux débutants. Même si on en faisait moins, même si nos articles sont plus orientés vers, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, la philosophie du libre.
Éditorial.
Voilà, la politique du libre et le sens du libre. C'est vrai qu'on se s'est retrouvé aussi là-dessus.
Alors, peut-être une date de mise en ligne a-t-elle été fixée ou cela reste-t-il en suspens ?
Elle a été fixée. On attend en fait, pour tout vous dire, une charte qui ne devrait pas tarder à être pondue.
Par le pingouin, évidemment.
Par un pingouin, voilà. Et dès qu'elle sera disponible, vous verrez la vraie tête de l'asile. Par contre, vous pouvez déjà voir le logo de l'asile sur le site asile.net, déjà en partie, et sur celui de Léa, et le voir en beaucoup plus gros sur le site de l'asile tout court. Donc c'est www.asill.org.
Voilà, asill.org. Un autre acronyme, lui, qui n'est pas inconnu, c'est celui de l'AFUL, A-F-U-L, qui veut dire, Albert,
c'est
une colle.
Oui, ça c'est une colle. Non, mais je vais laisser...
Association française des utilisateurs de Linux.
Voilà. Mais je vais laisser Thierry Stouer vous en raconter un petit peu plus.
Voilà, bonsoir Thierry.
Bonsoir à toutes et à tous. Il va être question de vous faire une petite présentation puisque là je vous appelle d'une cabine téléphonique, il pleut ici en région parisienne et indépendamment de ça, l'idée c'est ce que m'a demandé Albert pour l'émission de ce soir, c'est de faire une petite présentation de l'AFUL, c'est ça ?
Ouais, exactement.
Voilà. Une petite présentation de l'AFUL. L'AFUL, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Alors, brièvement, déjà ce que c'est pas, clairement, c'est pas la seule association du logiciel libre en France, ça c'est clair, ni la première qui a été créée, loin de là. L'AFUL a été créée il y a un peu plus de 6 ans, début 98. Il y a d'autres associations, je pense notamment à l'April qui était né un petit peu auparavant, puisque pour l'April c'est fin 96, donc c'est pas la seule association de logiciels libres. C'est pas un log non plus, ça quand on va sur le site afulafuel.org, on trouve beaucoup d'informations, de renseignements, d'articles, enfin diverses choses, mais il est clairement pas possible de se retrouver comme dans des logs locaux du genre ce qui se passe à Montpellier, ce qui se passe à Grenoble, ce qui se passe ailleurs en France, c'est-à-dire se retrouver très très localement, régulièrement, autour de diverses boissons ou pour faire des installations. Ça veut pas dire que c'est pas possible s'il y a des membres de l'AFUL qui souhaitent le faire, mais enfin c'est pas la première vocation. AFUL, ça veut dire quoi aussi, parce que c'est pas forcément évident. Normalement, en fait, il devrait y avoir 3 L à la fin, puisque c'est l'association francophone des utilisateurs de Linux et de logiciels libres. Alors, francophone, ça veut dire qu'en effet, il y a des membres qui sont en France, et vraiment aux quatre coins de la France, mais il y a aussi des membres qui sont en Suisse, qui sont en Belgique, qui sont au Luxembourg, qui sont dans les pays d'Afrique, notamment Afrique du Nord, quelques-uns du côté québécois-canadien, et même quelques membres encore du côté continent américain, mais aux États-Unis même. Très très peu, hein, genre ça doit être 2-3, mais disons que c'est francophone, c'est cette approche-là. Et approche qui dit quoi ? Qui dit, en fait, comme de toutes les associations, il n'y a pas autre chose que ce que veulent bien faire les membres des associations. Ça, je crois que j'invente rien et j'apprends rien aux personnes qui sont dans des associations. C'est avant tout les membres qui font les associations, évidemment. Autour de ça, pour l'AFUL, il y a pour tous ceux qui veulent participer, diverses actions qui se font envers par exemple des élus, envers par exemple des responsables de société, envers tous ceux qui peuvent être à des niveaux de décision ou à des niveaux de simples utilisateurs également. D'ailleurs, dans l'association, il y a des personnes physiques, hein, des membres comme moi ou d'autres. Et puis, il y a aussi quelques sociétés qui sont adhérentes et qui profitent du coup de quoi. Alors, ça, ce serait le volet. Et en quoi est-il intéressant d'être à l'affût? Je dirais qu'il y a des informations qui circulent, entre autres sur la liste membres, qui est réservée évidemment aux membres de l'association. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres listes qui existent. Je pense notamment à la liste éducation, qui elle est ouverte à tous ceux et toutes celles qui sont intéressés par le libre de l'éducation. Il y a aussi une liste technique et une liste support qui est aussi ouverte à tout le monde. Pas besoin d'être membre de la FUL pour y être. Et puis, il y a des actions aussi. Il y en a deux, moi, que j'aime bien citer. Enfin, pas que j'aime bien parce que ça fait plaisir, mais parce qu'aussi il y a des résultats. C'est d'une part le groupe de travail interopérabilité qui regroupe des personnes de la FUL et d'autres associations et qui essaye de faire avancer la cause de l'interopérabilité avec un certain nombre de succès. Je pense notamment à Radio France l'année dernière qui avait été contactée par le groupe interopérabilité pour qu'il propose autre chose que seulement un seul format d'émission sur le web. Donc là, il y a le groupe interopérabilité. Il y a le groupe aussi des taxes, dont de temps en temps, je sais qu'on a cité le nom sur Divergence pour les actions qui sont menées. Aussi là, avec des membres de la FUL et d'autres associations, c'est ouvert autour du problème lié à la vente forcée et au fait d'imposer l'achat de Windows sur les machines grand public qui sont vendus par différents constructeurs et qu'on trouve dans les grandes surfaces et ailleurs. Donc là, c'est ces deux groupes, Interop et puis des taxes, qui font pas mal de choses. J'ai pas dit une chose et qui me paraît quand même un peu important pour rendre à César ce qui appartient à César. Les deux personnes qui sont à l'origine de la FUL et qui y sont toujours, c'est d'une part Bernard Lang, que pas mal de personnes connaissent peut-être pour l'avoir soit lu, soit croisé, et puis Stéphane Fermigier qui a été jusqu'à l'année dernière le président de la FUL et qui étaient les deux personnes qui sont vraiment à l'origine de la chose pour dire on monte une association pour proposer des choses. Et je répète, c'est pas la seule association du libre, y compris du libre à un niveau un petit peu non pas local mais un peu plus large. Je dirais pas national parce que ça pourrait faire peut-être un peu pompeux. Mais en tout cas qui essaye d'agir au niveau le plus large possible, mais comme j'ai dit au début, pas forcément très très localement, sauf s'il y a des membres qui souhaitent qu'il y ait des choses qui se passent localement. Et là, s'il y a des manifs, oui on peut y être, ou oui on peut y être représenté. Il y a quand même des actions qui sont faites localement lors de diverses manifestations, y compris de manifestations un peu importantes comme Solution GNU Linux au mois de février. Donc voilà un petit peu ce qu'est en quelques traits la FUL.
Voilà. Faut aussi dire que Thierry était présent à Limoges à Game Over.
Oui, en effet, oui, j'étais présent pour saluer et pour faire deux conférences et c'était très bien Game Over. Ça a permis de lancer une belle manifestation qui peut-être va d'ailleurs se renouveler l'année prochaine.
Nous l'espérons tous.
On a souligné en début d'émission le fait que le lobbying des brevets avait remis un petit peu le texte à plat pour un retour à l'envoyeur. Est-ce que la FUL, puisque ça a l'air d'être comme ça aujourd'hui qu'il faut se battre, fait du lobbying?
Alors oui, là tout à fait. Parmi les dossiers qui sont, on va dire, les dossiers chauds du moment, qui sont ceux sur lesquels il y a du travail visible ou invisible, c'est-à-dire dans les coulisses, pour prendre des contacts, pour expliquer et pour essayer de faire avancer les idées et pour clarifier les situations, c'est sûr qu'il y a, alors c'est aussi un thème qui revient régulièrement, hein, il y a EUCD, les problèmes pour le droit à la copie privée. Il y a tout ce qui était CPA, Palladium, NGCB, etc. Et puis il y a aussi les brevets logiciels qui est sans doute le dossier qui dure depuis le plus longtemps, parce que ça fait bon nombre d'années que ça perdure, et qui revient là prochainement à la suite des nouvelles élections européennes qui vont avoir lieu. Donc oui, la FUL, mais on n'est pas les seuls, hein. Il y a là bien sûr aussi April, il y a aussi Eurolinux, il y a des associations qui sont des associations dans d'autres pays européens, qui montent au créneau, qui produisent des documents, qui essayent d'expliquer, avec parfois des résultats et des résultats positifs. Hein. Ce qui avait été mis dans les amendements l'année dernière, au mois de septembre, c'est clairement une reconnaissance de ce qu'on avait mis en avant, les associations du libre comme danger, qui a été prise en compte. Ça a été pris en compte, mais la lutte est telle que, évidemment, les adversaires reviennent à la charge, vont profiter du nombre plus important de députés, de leur méconnaissance du dossier, pour essayer, eux aussi, de faire passer ce qu'ils pensent être leurs bonnes idées, mais que nous, on avance comme étant certainement pas les bonnes, de vouloir breveter les logiciels et de breveter les idées et les méthodes. Les brevets sur les gonds et sur ce genre de choses, ça me gêne pas, et je pense qu'on est tous là tout à fait d'accord, sur une vraie invention, mais sur des choses qui sont déjà protégées, notamment par le droit d'auteur, mais là, il n'y a pas de brevet à déposer, il n'y a pas de brevet à avoir, parce que c'est la mort de l'industrie, c'est la mort de l'innovation, c'est la mort de la création dans le domaine de l'informatique.
D'accord. Ben, merci à toi pour nous avoir présenté ce soir la FUL.
La FUL. AFUL.org.
Exactement.
Oui, AFUL.org. Il n'y en a pas trois à la fin, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul, on s'est dit au moment où on a choisi le nom que un ça suffirait, et c'est Linux et les logiciels libres. Et donc ça englobe aussi, on va les citer parce que je sais pas s'ils ont toujours l'occasion d'être mentionnés, mais tous les BSD libres, par exemple. Voilà.
On en parlera d'ailleurs des BSD lors d'une prochaine émission qui leur sera complètement consacrée.
Eh ben, très bien.
Voilà, afil.org, en attendant de retrouver Thierry Stoer dans deux émissions, donc ce sera plus tard.
Merci beaucoup et bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.
Merci à toi.
Bonsoir Thierry.
Alors on voulait aussi dire quelques mots sur le spam, l'heure tourne, il nous reste pas beaucoup de temps. Quelques mots sur le spam, le courrier indésirable que l'on reçoit parfois abondamment quand on est par exemple un média associatif de petite taille mais néanmoins sur internet. On reçoit du spam qui souvent se confond aussi avec un autre type de spam qui n'a que pour but de transmettre des virus. Donc il y a le spam qui fait de la pub sans vous envoyer forcément de virus, et puis il y a le spam qui fait de la pub pour rien mais qui lui contient son pesant de virus. Alors qu'en est-il aujourd'hui? On a vu que ça préoccupait les autorités de façon croissante.
De plus en plus, effectivement, même maintenant que la LEN est passée, c'est juridiquement, ça l'était déjà un peu avant, mais maintenant que la LEN est passée, et la laine, il faut le dire sur ce côté-là, à mon côté, c'est devenu juridiquement très condamnable de faire du spam. Ça, il faut le savoir. Le spam, c'est tout ce courrier indésirable. Tu as parlé effectivement du côté des virus et du côté du courrier qui, en fait, vient apporter de la publicité. Il faut voir que les virus, en général, maintenant sur Windows, parce qu'il y a quasiment 99%, on va dire, tous de virus qui sont sous Windows, qui utilisent tous Outlook,
failles d'Outlook, des produits Microsoft,
voilà, pour envoyer des virus. Effectivement, ils se servent du meilleur moyen, qui est le courrier, pour envoyer justement ce virus de machine en machine. Et les gens ne vérifiant pas, effectivement, se trouvent assez rapidement attaqués il y a d'autres systèmes d'attaque, mais c'est une des principales. Aujourd'hui, les trois quarts des attaques faites sur les systèmes d'exploitation sont faits justement sur Outlook et sur les virus et en général sous Windows, quoi.
Alors il y a une précision technique qui, pour un néophyte comme moi, vaut son pesant de cacahuètes, c'est-à-dire que plus on a de la bande passante, plus on a un abonnement haut débit, plus on est susceptible d'être inondé, de recevoir du spam, c'est-à-dire que celui qui aujourd'hui a un modem à 33 kilos, il a assez peu de chances finalement d'être attaqué.
Il y a deux cas en fait. Oui, ce que tu dis est vrai, mais en même temps, non. Il y a aussi le problème de présence sur Internet. C'est-à-dire que plus on est présent, plus on va avoir une adresse, par exemple, électronique qui va être présente sur le net. Que ce soit par les newsgroups, que ce soit par les sites Internet, ou tout autre moyen de communiquer, ou même quand ils vont se retrouver dans les dossiers, je sais pas comment appeler ça, sous Outlook, mais de les carnets d'adresses, les carnets d'adresses de courrier, en fait, au bout d'un moment, les virus les distribuent aussi de plus en plus. Il y a déjà ça d'un côté. Et un autre fait qui est qu'effectivement, plus on a de bandes passantes, plus on intéresse les futurs pirates ou hackers qui auront tendance à s'introduire sur la machine, vu qu'elle est puissante et qu'elle a de l'espace pour pouvoir communiquer, pour pouvoir en attaquer d'autres. Mmh. Donc ça, c'est aussi...
Donc grosse configuration, grosse bande passante, et ça signifie un bon pôle pour venir squatter et profiter de tout ça pour se retransmettre abondamment.
Exactement. Mmh. Servir de relais, c'est quelque chose qui est aujourd'hui l'une des secondes natures des spammers. Se servir de tous les relais, de toutes les machines qui leur laissent la possibilité de s'y introduire. Mmh. Que ce soit d'ailleurs sous Windows, sous Linux ou sous Mac OS X. Parce que si sous Linux vous avez une machine avec un serveur de courrier qui est en relais ouvert, vous permettez aux spammers de servir de votre machine pour renvoyer du spam à d'autres. Donc eux, normal de se cacher et de vous rendre vous quelque part responsable. Et maintenant que la loi condamne ça, il faut faire très attention. Donc bien configurer son matériel.
Voilà, bien configurer le matériel, ça veut dire être curieux, hein, aller peut-être voir un petit peu les options, savoir comment se protéger, changer de client si on tient absolument à rester sous Windows, changer de client mail, installer une autre application pour faire le courrier, chose que la plupart des gens qui utilisent Windows ont aujourd'hui faite parce que les failles d'Outlook sont légendes et légions. Donc, mais malgré tout, voilà, pensez-y. Est-ce qu'il y a des solutions qui soient à la fois disponibles dans le libre et disponibles pour Windows pour se prémunir un petit peu?
Il y a un projet excellent à ce propos qui est Spam Assassin. Spam Assassin, d'ailleurs, il y en a deux versions. Il y en a une version qui est libre et une version qui est payante. La version payante, en fait, a été rachetée par McAfee. Donc, je ne sais pas si vous connaissez McAfee.
La solution antivirus.
La solution antivirus, c'est l'une des plus connues aujourd'hui.
Historique.
Qui fait aussi, maintenant, bizarrement, des anti-spam. Et qui se sert du moteur de Spam Assassin, vu qu'en fait, ils ont racheté la société qu'ils faisaient en libre. Et qui s'en servent maintenant sous notre licence, un peu comme fait Qt pour ceux qui connaissent avec KDE. Donc, sur Spam Assassin, il y a deux licences. Il y a une licence libre et une licence propriétaire. Et donc, c'est utilisé. Donc, on peut le trouver sur tous les systèmes. Spam Assassin, en version libre, est disponible sous Windows, Mac, OS X et Linux. C'est du Perl, donc c'est portable sur tous les systèmes. Je dirais qu'à l'heure actuelle, Spam Assassin est le logiciel le plus puissant pour lutter contre le spam. Associé à d'autres logiciels comme Razor ou Pizor, qui en fait sont des logiciels P2P, on a déjà parlé du P2P, c'est en fait un logiciel qui communique en permanence avec d'autres, permet de remplir une liste qu'on va dire noire de tous les mails qui peuvent contenir du spam.
Alors, pour ceux qui ont, par exemple, comme c'est le cas de Divergence FM, changé par exemple de domaine et qui se retrouvent avec des adresses précédemment utilisées qui ne le sont plus mais qui leur reviennent comme expéditeurs de virus ou de spam, est-ce qu'il y a un moyen de faire finalement disparaître ces précédentes adresses?
Tout dépend de l'intelligence du spammeur que vous avez derrière. En fait, on peut déjà avoir quelques infos regardant l'entête de ces mails pour en connaître la provenance. Parce qu'en général, il y a maintenant la dernière chose que font les spammeurs, c'est qu'ils utilisent des domaines dont ils ne possèdent pas, bien entendu,
les droits,
mais ça, c'est assez facile à faire avec un serveur de mail, en fait. Mais ils peuvent pas complètement se cacher. On peut toujours les retrouver. C'est clair. Déjà, s'ils sont pas très bons, vous pouvez les retrouver par l'entête de votre mail. Dans tous les clients de mail que vous avez un entête qui vous donnera les informations sur la provenance de votre courriel. Si malgré ça, ça ne suffit pas, votre hébergeur est toujours lui à même de pouvoir tracer le courrier qui a été destiné. Alors, si vous êtes le seul, c'est sûr que ça n'aura peut-être pas beaucoup d'influence et que, en général, les FAI, les fournisseurs d'accès, ont d'autres chats à fouetter.
Ou alors, ils facturent le service.
Oui, oui. Mais ça encore, pas tous le font. Ils sont très peu à le faire. Par contre, ils se rendent compte aussi que ça leur prend beaucoup de bande passante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le spam consomme plus que, par exemple, tous les logiciels de P2P qui existent. Ce qui peut paraître assez hallucinant, ouais. Mais c'est pourtant le cas. Les fournisseurs d'accès, que ce soit Free, Wanadoo, Tiscali ou autres, sont beaucoup plus victimes du spam et essayent aujourd'hui de trouver des solutions pour lutter contre que par exemple ne le fait le P2P.
Très bien, peut-être un mot Jean-Claude sur le spam. Es-tu toi affligé de nombreux spams ?
Ah oui, malheureusement, comme beaucoup d'entre nous, dans la mesure où j'ai une adresse publique, mon adresse Linux French, et donc je reçois à peu près 200 spams par jour, spam plus virus, ce qui est tout à fait désagréable.
Devient aussi une charge de travail quotidienne.
Oui,
à gérer.
Oui, oui, absolument, on est obligé de faire le tri, c'est pénible, et c'est là que prend tout son intérêt les logiciels anti-spam tels que Spam Assassin et ses acolytes. Mais je voudrais faire une petite remarque à propos de tout ce qu'on vient de dire à propos du spam. Je me disais, en vous écoutant tous les deux, que notre auditeur tout à fait béotien en la matière a dû se demander, mais bon sang, mais de quoi est-ce qu'ils sont en train de me parler ? Ce langage est vraiment ésotérique au possible. Ça serait bien qu'on arrive à sortir un texte qui soit audible par n'importe quel kidam.
Alors nul doute que si vous voulez plus d'infos, plus de détails sur le spam, d'où ça vient, quand ça vient, pourquoi ça vient, comment ça vient et comment s'en défaire, je pense que vous retrouverez beaucoup de ressources sur lialinux.org ou sur linuxfrench.net ou sur Google, puisque Google a réponse à tout. C'est en passe de devenir un proverbe. On va envoyer un petit peu de musique pour soutenir notre agenda de fin d'émission, puisqu'on a déjà débordé de 6 minutes 30 et c'est inadmissible. On écoute Philippe de Montredon, notre Marseillais, que l'on invitera sans doute prochainement sur cette émission, puisque c'est quand même un artiste intéressant qui fait de la bonne musique, qui est bien produite, qui est en Open Audio License, et il est à Marseille, alors c'est vraiment à côté. L'agenda, que nous réserve-t-il ? Quels sont les prochains rendez-vous ?
Les prochains rendez-vous, le 6 mai 2004, à 18h, à Nîmes, la Chambre de commerce et d'industrie organise une soirée pour parler du libre à destination des entreprises. L'association Hall, d'ailleurs, que vous connaissez, si vous êtes à Montpellier, y participera. Du mercredi 12 au vendredi 14 mai, autour du Libre 2004, c'est pour diffuser le savoir et le produire à l'École nationale supérieure des télécommunications de Bretagne, donc à Brest. Samedi 15 mai, une installe partie à Biscarros, dans les Landes, organisée par La Bulle, organisatrice par de la même, La Bulle, vous savez, des Rencontre mondiale du C'est pas grave, personne suit.
Du logiciel libre.
Merci. Le samedi 15 mai, à Paris, à la Villette, une introduction à Perl aura lieu à partir de 14h, donc à la cyberbase de la Cité des Sciences et la Villette. Le 15 mai, le même jour, il y aura aussi des choses amusantes et intéressantes à Compenac. Dans le 33, donc c'est à Pessac, ça doit être dans la Gironde. Merci Jean-Claude. Le 26 mai aura lieu à Archand, en Gironde. Ouais, Linux Edu, c'est une manifestation plutôt à destination de l'éducation à Linux, mais plus Linux et aussi des administrations très intéressantes. Si nous y serons, je vous y convie. Et aussi il y a des retours, bien sûr. Et d'ailleurs, ce que je peux rajouter, si j'ai encore le temps, j'y convie. Aussi, retour en direct sur Pierrecast. Je continue.
Oui.
Comme dit qu'on... Le jeudi 27 mai à Paris, il y aura une conférence de Paris Nux avec la coopération de Frédéric Couchet, président de l'April, donc de l'autre association du Libre National, et aussi de la FSF, Free Software Foundation. France, n'est-ce pas? Le 29 mai aura lieu, faites pas grand chose. Après, on va sauter directement du 2 au 4 juin. Ce sera, et ça c'est assez important, aura lieu le symposium sur la sécurité des technologies de l'information et des communications à Rennes. Alors, c'est une conférence qui est plutôt destinée aux connaisseurs, mais qui est vraiment très intéressante, qui s'occupe de la sécurité, etc. Je vous la conseille si vous avez l'occasion d'y aller. Voilà, après on peut parler de la journée Gutenberg, à laquelle participera Thierry Stoer le 14 juin à Paris. Après, vite, du 6 au 10 juillet 2004 auront lieu à Bordeaux les rencontres mondiales du logiciel libre. Et pour finir, le 25 septembre 2004 à Montpellier aura lieu une nouvelle Léa Asile Linux French Party. Mais nous en reparlerons plus dans une prochaine émission.
Voilà, sans oublier d'aller faire un tour sur diagokawenga.com puisque l'ECM de Montpellier, plus près de chez nous, organise moult événements. Il y a beaucoup de choses à aller voir et découvrir sur ce site. Je n'ai pas les derniers rendez-vous en tête, mais ils abondent régulièrement. Et toutes nos pensées vont à Anthony qui est dans son lit. Tiens, oui. Et nous écoute.
Bravo, enfin, à bientôt Anthony du moins, et à bientôt en tout cas, et au mois prochain. Une dernière chose, avant que je tombe directement, c'est un grand merci quand même à Dimitri pour m'avoir aidé pour l'agenda.
Très bien, merci à Dimitri Baudor qui est rédac chef de
l'IF.
À Dimitri, c'est pas le même. Les Dimitri sont partout, Divergence Numérique c'est terminé, c'était la 7e émission. Dimitri Baudor d'ailleurs qu'on aura sans doute dans Divergence Numérique prochainement. On remercie Tao alias Gilly Turbide ainsi que Rodolphe Guérard pour avoir s'être succédé à la réalisation technique de cette Divergence Numérique numéro 7. On vous souhaite une bonne écoute, un dernier mot Albert décidément, mais le dernier.
Merci à Dimitri Robert et bonsoir voilà. À Denis Baudor.
Ah, c'est moi qui me suis mélangé les pinceaux. Ce n'est pas grave, on remercie Jean-Claude d'avoir été avec nous depuis Béziers.
Merci
enfin,
à tous.
Avec nous dans les studios, mais il a fait la route. Et tout de suite, on vous donne rendez-vous dans quelques minutes au Last Jeudi de Montpellier à la brasserie du Triolet, 34 avenue Émile Diacon. C'était Gilles Bouget au micro rouge, Albert Bruc au micro jaune et Jean-Claude Stigler au micro bleu.
Bonsoir.
Bonsoir.
Salut.
À tous.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Divergence FM, fucking 93.9.
Come on!
It ain't gonna be me.